Le samedi, 10h-10h30 sur Méga FM, la puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
Chef d'entreprise, acteur économique, politique, personnalité du Loiret, acteur de la vie locale. Ils vous disent tout sur Méga FM, la puce à l'oreille, avec Rémi Sy.
Bonjour à tous et bienvenue et bien pour votre rendez-vous sur Méga FM, la puce à l'oreille, comme chaque semaine. Entre 10h et 10h30, je reçois un invité politique, économique ou issu du monde associatif. Dans cette émission, eh bien, nous parlerons de l'actualité locale et des enjeux de notre territoire. Plus de détails tout de suite, c'est dans notre sommaire.
Méga FM,
la puce à l'oreille, la puce à l'oreille, le sommaire.
Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous aborderons l'engagement sur le Loiret de mon invité. J'évoquerai les problématiques liées aux agriculteurs avec les récentes propositions faites par le gouvernement. Je parlerai des élections présidentielles de 2017 avec une primaire large à gauche, pourquoi pas la présence de François Hollande ou non. Et puis nous poserons toutes les questions que vous vous posez évidemment. Nous nous interrogerons sur l'entrée des écologistes au gouvernement, bonne ou mauvaise nouvelle. Je questionnerai mon invité sur les sujets qui préoccupent les Loiretains, le franchissement de la Loire avec le futur pont de Jargeau, les projets économiques, solidaires, sanitaires ou encore scolaires. Enfin, nous nous pencherons sur les questions liées au transport ou encore à la culture. Et puis, nous parlerons bien sûr des projets et de l'actualité de l'invité que je vous présente tout de suite.
Le samedi, 10h-10h30 sur Méga FM,
la puce à l'oreille,
le portrait de l'invité.
L'invité de la puce à l'oreille ce matin, eh bien, c'est Thierry Solaire. Bonjour Thierry Solaire.
Bonjour.
Vous êtes conseiller départemental du Loiret, PS. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un écologiste ?
Oui, en fait, je ne suis pas PS, je suis Europe Écologie Les Verts et effectivement engagé dans l'écologie depuis un certain temps, oui.
Donc vous êtes élu eh bien, depuis un an ?
Réélu depuis un an, donc mon premier mandat a commencé en 2008 sur le canton de Chécy et j'ai été réélu en binôme l'année dernière. Quoi.
Donc vous avez 51 ans, enseignant, c'est bien cela ?
Oui.
Au sein du conseil départemental, vous faites partie de la commission finances, ressources humaines et services support. Qu'est-ce que ça renferme, cette commission ?
Ah bah déjà les finances, hein, c'est-à-dire que c'est la commission qui va étudier toutes les décisions financières et essentiellement le budget. Les ressources humaines, c'est aussi le suivi de la politique ressources humaines, même si c'est plutôt quelque chose qui se passe dans les services, hein, mais il y a des choix qui sont faits sur la façon dont on administre le personnel du conseil départemental et tous les services supports, c'est les services qui interviennent dans les différents domaines en support des gens spécialisés.
Alors, depuis les dernières élections départementales, les cantons ont été redécoupés. Vous expliquez d'ailleurs que vous étiez élu à Chécy sur la précédente mandature. Et puis, on a introduit eh bien, les binômes mixtes. Il y a donc autant d'élus femmes que d'élus d'hommes. Vous êtes élu donc avec Vanessa Boda-Slimani. Un premier bilan, déjà après un an de mandature, de cette nouvelle mandature 2014-2021. C'est bien cela ?
Oui, 2015-2021. Effectivement, bah, le travail en binôme et notamment en ce qui nous concerne avec Vanessa Boda-Slimani, ça se passe très bien, c'est intéressant. En même temps, moi depuis le départ, et c'est le point de vue des écologistes depuis très longtemps, je suis assez hostile à l'idée de circonscription à l'intérieur d'une collectivité. C'est-à-dire que si le département est administré par un conseil départemental, il me semble que tous les électeurs devraient pouvoir voter pour tous les élus. Un peu comme dans une ville, un peu comme à la région, un scrutin de liste avec de la proportionnelle plus ou moins de primes majoritaires. Ça me paraît très logique parce que ça permet d'exposer un projet pour l'ensemble du département au lieu d'avoir des gens qui se présentent chacun dans leur canton en racontant un peu ce qu'ils veulent. Nous, on était en alliance socialiste et écologiste, on a fait un projet que tous les candidats ont porté chacun dans leur canton. C'était pas forcément le cas de la majorité puisqu'on a passé un an là depuis notre élection à créer un projet de mandat voilà avec des gens qui ont tous été élus semble-t-il les élus de la majorité chacun dans leur canton et il a fallu donc après l'élection pendant un an réfléchir à qu'est-ce qu'on proposait pour tout le département et ça ce n'est pas soumis aux électeurs.
Moi, j'ai envie de vous poser une question. Il y a seulement 3 cantons qui sont détenus par les alliances de gauche, pour parler de manière plus large. 3 cantons, Saint-Jean-de-Bray, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Fleury-les-Aubrais. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de se faire entendre, et notamment pour construire un projet et puis faire force de proposition, être constructif quand on n'est eh bien donc que 6 élus, dans 3 binômes ?
Non, enfin c'est plus difficile que quand on est plus nombreux, bien sûr. Mais par contre, effectivement, il y a une écoute au sein de cette assemblée. Il y a toujours eu un respect. Alors c'est vrai que c'est un des avantages des élections cantonales, c'est que tous les élus sont des gagnants. Ils ont tous gagné leur élection, ce qui n'est pas le cas d'habitude quand il y a un groupe d'opposition. En même temps, voilà, on est une très petite minorité et malgré l'écoute, c'est vrai que c'est difficile de faire changer les décisions.
Avant de parler des informations locales et de ce qui concerne bien évidemment le Loiret, des questions d'actualité nationale, et parlons agriculture avec l'annonce faite par Manuel Valls, Premier ministre, ce mercredi à l'Assemblée nationale, une baisse de 7 points des cotisations sociales de tous les agriculteurs ainsi qu'une année blanche sociale pour les agriculteurs ayant dégagé de très faibles revenus en 2015. Cette annonce, eh bien, je vous le rappelle, elle intervient dans un contexte de crise agricole française mais européenne de manière plus large. Qu'est-ce que vous en pensez de cette année blanche pour les agriculteurs? C'est une bonne nouvelle?
Financièrement, oui, c'est sans doute une bonne nouvelle, mais c'est du bricolage, quoi. C'est-à-dire qu'on va encore gérer la question par des aides financières plus ou moins directes à cette profession, alors que ce qu'il faudrait, c'est que les paysans puissent vivre de leur travail, des produits qu'ils arrivent à produire. Et malheureusement, ça nécessiterait, à mon avis, une transition dans ce secteur, comme dans bien d'autres, vers... moi, j'ai proposé plus d'écologie, c'est-à-dire des méthodes de culture qui permettent d'avoir de la qualité, du rendement, sans être obligé, pour les agriculteurs, de s'endetter, de dépendre, en fait, de l'industrie chimique d'un côté, pour leurs approvisionnements, et de la grande distribution pour la diffusion. Donc il y a d'autres circuits à trouver, d'autres façons de cultiver aussi, qui permettent que ce soit le travail des agriculteurs qui soit reconnu, parce qu'aujourd'hui, finalement, voilà, c'est uniquement des subventions, des aides, qui font qu'ils arrivent à équilibrer, et peut-être, pour certains, difficilement à se verser un salaire. Bon, après, il y en a quelques autres qui en profitent très très largement, et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment ce sont ces quelques privilégiés qui dirigent la profession.
Il y a 10 jours, François Hollande et Manuel Valls ont présenté un nouveau gouvernement. En quelques mots sur ce remaniement, et j'aimerais vous interroger plutôt sur la partie entrée des écologistes qui, pour certains, eh bien, ont perdu leur couleur au sein d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, ou qui en tout cas sont un petit peu lâchés par leur camp. Qu'est-ce que vous en pensez de l'entrée de Jean-Vincent Placé ou d'Emmanuel Colz, entre autres?
Oui, alors lâcher, non, c'est un petit peu l'inverse d'une certaine manière. Maintenant, Europe Écologie Les Verts n'a pas le monopole de l'écologie. Simplement, effectivement, il y a certains de ces personnes nous ont quittés il y a quelques mois. Emmanuel Kos vient de le faire pour entrer au gouvernement. Moi, je pense que c'est toujours bon qu'il y ait des écologistes au gouvernement. En même temps, le parti écologiste Europe Écologie Les Verts ne pense pas que ce soit possible de travailler sans un changement beaucoup plus marqué des politiques économiques notamment, et de la façon de voir l'avenir par ce gouvernement.
On va marquer une pause sur Méga FM avec de la musique, qu'on va continuer. Ça va être très bien. Un petit peu de musique, et puis on reparlera bien sûr des sujets locaux avec toutes ces questions, notamment relatifs au pont de Jargeau.
Méga FM, le samedi, 10h-10h30, la plus à l'oreille. Rémi Si.
La suite de votre nouvelle émission, La Puce à l'oreille sur Méga FM, avec mon invité Thierry Solaire, conseiller départemental PS du Loiret, on devrait même dire Europe Écologie Les Verts du coup. Parlons maintenant de la vie politique dans le Loiret, avec bien sûr les différents projets qui sont en cours sur notre territoire, et c'est notamment un sujet d'actualité, c'est le dossier du pont de Jargeau et de la déviation RD 921. Alors pour rappel, la construction de ce pont permettant de franchir la Loire a pour but de désengorger l'actuel pont de Jargeau, Saint-Nid-de-l'Hôtel. C'est en tout cas comme ça que le projet est présenté. Outre le pont, il y a bien sûr une déviation qui est prévue dans ce projet sous la forme d'une route à 2 voies d'une 15aine de kilomètres à l'est de Jargeau. Ce chantier est bien sûr piloté par le conseil départemental dont Thierry Solaire est issu, sans pour autant soutenir le projet. Vous ne le soutenez pas du tout, ce projet?
Non, pas du tout. Non, je suis même son principal opposant dans l'Assemblée. Quelquefois unique opposant, ça dépend des façons d'aborder le sujet. Non, c'est un projet qui est aberrant, qui est complètement daté, et qui surtout, même si il est évident qu'il y a une difficulté avec les camions qui traversent Saint-Nid-de-l'Hôtel et Jargeau, c'est un projet qui ne répond pas à la problématique. Alors, si on prend les chiffres du conseil départemental, par exemple, la moitié des poids lourds seraient issus soit de Jargeau, soit de Darvois. C'est de là que proviennent le trafic. Donc, on peut se demander s'ils vont pas continuer à traverser dans ces villes-là. Et puis, de toute façon, par ailleurs, il y a un impact phénoménal autre. C'est-à-dire que non seulement on résout pas vraiment le problème posé avec une déviation, mais on va dépenser 100 millions pour créer plein d'autres problèmes. Des problèmes de circulation ailleurs. Les études du conseil départemental toujours montrent que le trafic va être cette fois-ci saturé à Mardier, à Sandillon et amplifié dans pas mal d'autres bourgs parce qu'en fait, c'est un pont qui va attirer plus de trafic. Une partie viendra de l'agglo, essentiellement du Pontinat qui va être peut-être un peu soulagé, mais ça n'a pas l'air du tout d'être la problématique du département. Mais c'est ce qui va se passer et surtout on risque d'attirer plus de trafic de camions. On va dans un modèle aussi de société où on base tout sur les déplacements automobiles, alors qu'on sait très bien qu'à l'avenir et l'avenir qu'il faudrait préparer, ce serait plutôt d'autres formes de déplacement et de transport.
Mais est-ce que vous pouvez comprendre que beaucoup de Loiretains qui sont amenés à partir de Châteauneuf le matin, de Jargeau, de Saint-Denis-de-l'Hôtel, en aient un petit peu marre tous les matins et tous les soirs d'être bloqués sur ce pont et qu'il faille quand même un autre pont? Alors peut-être pas forcément à cet endroit-là, mais un autre enjambement de la Loire.
Non, je pense pas, parce que toutes les études montrent que quand on fait un pont, au bout de 10 ans, c'est le deuxième pont qui est bloqué. C'est des aspirateurs à voiture, à camion. C'est-à-dire que là, des gens qui ne prendraient pas leur voiture vont se dire, tiens, je vais la prendre. Ou des gens qui ne faisaient pas ce circuit-là vont se mettre à le faire. Et de toute façon, d'ailleurs, les chiffres sont clairs. Hein, y a une montée de trafic, il n'y a pas beaucoup de baisse sur le pont actuel. Et il y a un nouveau trafic très important sur le nouveau pont qui est programmé. Donc on sait très bien qu'on va attirer plus de trafic, donc on va créer plus de nuisances. L'embouteillage, il a suffi que les feux soient réglés un peu différemment. On a déjà des embouteillages beaucoup moins gênants sur le pont. Enfin, moi, chaque fois que j'y passe, je ne suis jamais bloqué, donc j'y passe aux heures de pointe. Hein. On est bloqué comme dans une ville où on circule, où il y a des feux rouges, voilà. Donc il faut peut-être aménager des deux côtés, il faut régler, peut-être doubler le pont d'une passerelle, parce que c'est très difficile de passer à vélo, ça je suis d'accord, mais ça ne coûterait pas 100 millions. Et il y a beaucoup de Loiretains qui, avec ces 100 millions, attendraient un collège, une maison de retraite, qu'on installe le numérique dans les zones rurales. Il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que ça prend le budget d'un an du conseil départemental. Et si vous prenez la liste de tout ce que fait comme investissement le conseil départemental en un an, est-ce qu'on peut se permettre une année blanche rien que pour un projet ?
Dans le vaste dossier de présentation très épais de l'ouvrage, on nous explique toutes les garanties écologiques et visuelles qu'on va apporter à ce pont, avec des aménagements acoustiques, avec différentes enquêtes qui ont été menées sur l'impact éventuel sur les sites protégés, les sites naturels, va déranger ou non d'ailleurs ce pont. Et puis on nous précise que le pont sera de forme horizontale, discret et linéaire, dénué de superstructure, fin de citation. Vous criez à l'enfumage ou est-ce que vous y croyez quand même un petit peu? On a vu des images, des simulations de ce pont.
Oui, elles sont formidables, les simulations, parce que c'est des simulations où il n'y a même pas un vélo sur le nouveau pont. C'est-à-dire qu'on voit effectivement un joli trait tout fin, sauf qu'on oublie que si on le construit, c'est bien soi-disant pour y détourner le trafic, et moi je dis en créer d'autres. Donc ce pont devrait nous être montré avec un embouteillage de camions dessus, ou du moins une file ininterrompue, et ça n'a pas du tout le même effet, et si on met le son en même temps, on s'aperçoit que c'est pas du tout aussi joli que ce qu'on veut nous dire. Après, au niveau environnemental, on peut toujours essayer de compenser, mais une fois qu'on a perdu 100 hectares de terre, dont 50 hectares de terre agricole, comment on va compenser? C'est complètement absurde. On a des terres très bonnes à cultiver, on parlait des agriculteurs tout à l'heure. Si on veut que les gens puissent continuer à travailler, il faut arrêter de grignoter les terres pour constamment bétonner, mettre des projets nouveaux qui nous coûteront cher à l'avenir.
Alors vous avez évoqué très récemment l'idée d'un référendum ouvert à tous les Loiretains pour savoir s'ils souhaitent ou pas la création de ce pont. Est-ce que malgré ce référendum que vous proposez, vous dites que c'est peine perdue et que quoi qu'il arrive, ce projet on le fera? Ou est-ce que vous y croyez encore? Et un référendum, ça pourrait séduire le président et la majorité du conseil départemental?
Moi j'aimerais bien qu'on fasse un référendum. Je suis à peu près certain que si on pose la question correctement aux Loiretains, c'est-à-dire si on leur dit est-ce que vous voulez qu'on fasse le pont ou est-ce que vous voulez que les 100 millions en question, on les emploie ailleurs, d'ailleurs dans des projets qui créeraient certainement plus d'emplois, parce que les investissements dans un pont, on sait que les sociétés qui vont intervenir peuvent faire appel à des travailleurs détachés ou à des formes d'emploi qui sont pas forcément celles qu'on souhaite. Donc si on laisse le choix à tous les Loiretains, moi je serais assez confiant. Il faut poser la question correctement. Si on dit aux gens de Jargeau, est-ce que vous voulez qu'on vous enlève les camions, ce qui serait pas le cas d'ailleurs, effectivement ils vont tous répondre oui.
On va écouter, avant de revenir eh bien sûr sur les grands chantiers, avec notamment le village Auxilane de Saint-Jean-de-Brun, on va écouter, eh bien c'est votre choix en quelque sorte, choix musical, on va écouter Dominique A, Rendez-nous la lumière, et puis on en parlera
rendez-nous
juste
la
après.
Lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau, et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau. Nous l'avons caché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau.
Dominique A, rendez-nous la lumière. Pourquoi ce choix, Thierry Solaire, de ce titre ce matin?
Bah d'abord parce que c'est un artiste que j'aime bien musicalement. Et puis bon, vous avez noté que la chanson évoque la beauté, et je crois que c'est quelque chose d'important, quoi. On n'est pas là uniquement pour compter les euros, comme je le faisais à l'instant, mais aussi pour profiter de la beauté du monde. Alors, il y a un côté nostalgique, mais ça, c'est Dominica. Moi, je suis pas très nostalgique. Je pense que les nouvelles générations vont profiter du monde, vont profiter de la beauté et l'entretenir.
Continuons avec les grands chantiers en cours ou à venir dans le Loiret, et plus particulièrement eh bien, sur votre canton, celui de Saint-Jean-de-Bray, avec la création d'une vaste zone commerciale appelée Village Auxilane, de 15 hectares à proximité du site Dior implanté sur la ville de Saint-Jean-de-Bray. Un investissement économique de plus de 30 millions d'euros au total et implanté avec l'implantation d'une grande enseigne, un décathlon de 5000 mètres carrés. Ce projet il est soutenu bien sûr par le maire de Saint-Jean-de-Bray, David Thiberge. Qui est proche de vous, pas politiquement, en quelques mots?
Oui, on est assez proche sur la façon d'aborder la politique, mais effectivement, ça fait partie des divergences qu'on peut avoir. Quand on parle de développement économique, moi j'ai tendance à penser qu'il y a besoin aussi dans ce domaine, je le disais, d'une transition, c'est-à-dire qu'on recherche plutôt des emplois localisables avec des sociétés qui soient créées sur place ou qui soient développées sur place. Là, on est avec une multinationale qui vient préempter un petit peu le commerce et qui risque de faire fermer d'ailleurs d'autres commerces. Après, c'est un projet que la mairie de Saint-Jean-de-Bray a essayé de rendre plus compatible avec les contraintes environnementales. Voilà, moi j'ai toujours dit, je pense que ce serait mieux que ce genre de projet ne voit pas le jour. C'est peut-être pas le plus grave qu'on puisse avoir dans le Loiret, mais c'est vrai que ça me dérange un peu.
240 postes tout de même qui sont prévus à la fin avec l'installation de toutes les enseignes sur ce site. Vous considérez que c'est pas forcément très bien, que ça peut supprimer d'autres emplois sur des petits commerces, par exemple en centre-ville?
Ben oui, c'est pas parce qu'il y a un magasin de sport en plus que les gens vont faire deux fois plus de sport, avoir deux fois plus de revenus pour acheter deux fois plus de matériel. On l'a vu d'ailleurs avec l'implantation de l'enseigne Ikea au sud d'Orléans. Il y a déjà deux magasins de meubles qui ont fermé. Alors, c'est pas uniquement à cause de ça, mais de toute façon, moi, je vois pas comment la création d'un magasin va créer de l'activité supplémentaire.
Parlons à présent du plan EHPAD Loiret, un plan départemental destiné à construire, à rénover, à moderniser les EHPAD, qui sont les établissements hospitaliers pour les personnes âgées dépendantes. Un plan qui va s'étaler jusqu'à la fin du mandat en 2021. Un investissement total de plus de 140 millions d'euros, dont 20 millions d'euros pris en charge par le conseil départemental. Ce plan EHPAD, Thierry Solaire, il va concerner 24 maisons de santé. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, qu'on investisse pour l'indépendance?
Ah oui, ça, c'est absolument indispensable. Moi, j'ai côtoyé un certain temps, j'ai siégé au sein de la maison de retraite de Fayolo. Je peux vous dire que le bâtiment a besoin d'être changé. Il y a un regroupement prévu avec l'établissement de Jargeau, avec un nouvel établissement neuf. Ce qu'il faut, c'est d'une part se battre pour qu'il y ait toujours le même nombre de places, parce qu'il y a toujours des gens qui attendent des places dans ces établissements, et qu'on ait des moyens d'accueillir les gens dans des conditions dignes. Et là aussi, on voit que pour faire ça, il faut peut-être faire des choix budgétaires, et c'est pour ça que moi, je m'oppose au pont, notamment.
En quelques mots, avant de nous quitter, la construction du nouveau collège à Orléans Nord-Est, qui doit s'implanter le long de l'avenue des Droits de l'Homme, dans le secteur Argonne d'Orléans, un grand, grand quartier. Ça fait des années qu'on entend parler de ce collège, ça ne bouge pas. Est-ce que ça va bouger dans les prochaines années ?
Oui, ça va bouger dans le mandat. Ce que je veux dire, c'est que sur les constructions de collèges, moi j'ai toujours soutenu et je félicite mes collègues de la majorité pour les investissements qui sont faits dans ce domaine. Encore une fois, ça, pour moi, c'est une des priorités, donc ça explique certains choix. Et les prochains collèges prévus, c'est Pithiviers, donc ce collège nord-est de l'Aglo. Il faudra faire aussi un travail à Saint-Jean-de-la-Ruelle et l'extension du collège de Tigy, que je n'oublie pas.
Affaire à suivre, du coup, dernière séquence de l'émission. Si vous deviez conclure en une phrase, un mot, un message à passer, ce serait quoi ? Quel est le sujet aujourd'hui qui vous marque et sur lequel vous aimeriez interpeller les Loiretains ?
Moi, je crois qu'il faut faire attention à garder l'Europe. Et l'Europe, et surtout préserver la paix dans le monde. Donc voilà, moi je suis pacifiste, c'est-à-dire que je souhaite qu'on fasse tout ce qu'on peut pour préserver la paix.
La puce à l'oreille. La puce à l'oreille.
Merci Thierry Solaire d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission qui sera retrouvée bien sûr sur le www.megafm.fr, rubrique La puce à l'oreille. Merci à Stéphane pour la réalisation qui reste en place puisque tout de suite, elle arrive, c'est Lydia.
Bonjour Lydia. Rémi, comment allez-vous ?
Ça va très très bien, merci. Je reste avec vous.
Mais oui, vous restez avec nous puisqu'à 11h30, vous nous présenterez votre coup de cœur dans l'émission Circuler et tout avoir qui arrive d'ici quelques petites minutes. À tout de suite.